Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila Topin.
À la une de l'actualité, insécurité au Burkina, 17 civils tués ce samedi dans une attaque de présumés terroristes à Madjouari. Dans la région de l'Est, l'attaque a également fait 7 blessés évacués dimanche par hélicoptère à Fadangourma, capitale de la région. Situation à Perquois, un mois déjà, sans nouvelles des 8 mineurs bloqués dans la mine souterraine de zinc de Perquois. Les sapeurs-pompiers ont effectué leur plongée ce lundi, mais n'ont pas pu voir l'intérieur de la chambre de refuge. En France, l'ex-ministre du Travail, Elisabeth Borne, nommée ce lundi première ministre par Emmanuel Macron. Elle succède à Jean Castex, qui a remis sa démission plus tôt dans l'après-midi. Le Mali se retire du G5 Sahel et de la force conjointe militaire de transition. L'organisation est instrumentalisée par l'extérieur. C'est justement cette question qui sera abordée avec notre invité du jour, Mamoudou Sawadogo, gendarme à la retraite et expert en sécurité. Ce sont les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Radio Oméga. Insécurité au Burkina, 17 civils ont été tués samedi dans une attaque de présumés terroristes à Madjouari, dans la région de l'Est, a confié à Oméga lundi plusieurs sources locales. Selon les sources de Oméga, deux volontaires pour la défense de la patrie VDP font partie des victimes. L'attaque a également fait 7 blessés évacués dimanche par hélicoptère à Fadangourma, capitale de la région de l'Est. Les quelques 700 personnes qui restent encore dans le village de Tambarga sont sans provisions alimentaires parce que plus rien n'y entre depuis longtemps. Ne sachant plus quoi faire, une partie de cette population s'est faite escorter par des VDP pour se rendre à Namouyouri pour cueillir des mangues, indique le quotidien. L'observateur Palga est confirmé par les sources de Oméga. C'est sur le chemin que le convoi a été victime d'une attaque, poursuivent nos sources. Inondation, à Perquois, les jours passent. Si certains sont pessimistes, les familles et proches ne perdent pas espoir. Les sapeurs-pompiers ont effectué leur plongée ce lundi. Ils n'ont pas pu voir l'intérieur de la chambre de refuge à travers la vitre à cause de la boue, mais il ressort que la chambre est intacte et n'a pas été emportée par les eaux, a appris Radio Oméga sur place. Depuis le 16 avril, 8 travailleurs sont prisonniers dans la mine souterraine, car la mine étant inondée par les eaux de pluie. L'État burkinabé accélère la dépolitisation de l'administration publique. Pour sceller cette ambition, un atelier national de validation du draft de l'avant-projet de loi portant dépolitisation de l'administration et renforcement de la méritocratie au Burkina Faso a été organisé ce lundi à Ouagadougou. Moni Yaro pour le compte-rendu.
Mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, loin des nominations de complaisance, de récompenses politiques et la vision de la loi dont l'étude a été commanditée en 2015 pour voir les manifestations de la politisation dans l'administration politique burkinabé. Avant d'y arriver, il faut recueillir les recommandations des uns et des autres pour les soumettre aux décideurs. D'où cet atelier de validation de l'étude actualisée cette année 2022. Étienne Kabouré, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance.
Il y a plusieurs manifestations de la politisation dans notre administration publique. La première manifestation, c'est l'existence de cellules ou de regroupements à caractère politique. La deuxième manifestation, c'est la visibilité de signes distinctifs du parti politique. Nous avons également les nominations ou les recrutements à caractère politique.
La loi promeut donc le mérite dans l'administration publique. Elle y condamne également toute activité politique. Étienne Kabouré.
À travers cette loi, nous allons classifier les fonctions dites politiques et les fonctions dites techniques. Et à ces fonctions techniques, nous allons définir un minimum de conditions pour y accéder en termes de qualification diplômante, en termes d'expérience, pour que quand vous êtes nommé à un poste, que ce soit sur la base de vos compétences et non sur la base de votre appartenance politique. Nous voulons d'une administration publique républicaine, dépolitisée.
Des sanctions sont prévues contre les personnes et les partis politiques qui vont enfreindre à cette loi. Elles vont des amendes, des emprisonnements ou licenciements.
100% de succès aux examens de PPCE du bac série A4 et D, c'est l'objectif que s'est fixé le groupe 100% succès du Centre international de formation d'excellence des champions. Il perpétue la tradition et cette 8e édition entre dans le cadre du renforcement des performances des élèves. Les cours commencent jeudi selon le groupe d'enseignants qui encadre les élèves. Le compte rendu de Jean-Paul Ouédraogo.
Chaque élève de la classe de 3e doit débourser 20 000 francs et 30 000 francs pour ceux du bac pour prendre part aux cours dispensés par des enseignants du groupe 100% succès du Centre international de formation d'excellence Les Champions. Hervé Guédenon, promoteur du groupe 100% succès.
C'est un programme que j'organise chaque année et lors du programme, on traite 10 épreuves par matière. On regroupe toutes les questions possibles qui viennent à l'examen. Ça concerne toutes les matières, maths, physique, SVT, toutes les matières. Donc quand l'élève termine toutes ces questions de cours, il n'y a rien à faire. Ils doivent s'en sortir obligatoirement. Tu viens inscrire ton enfant, il vient suivre les cours de 7h à 18h avec 2 heures de pause à midi. Donc l'élève est déjà prêt à affronter l'examen. Et on les laisse la veille de l'examen.
Et déjà, des candidats de cette année scolaire sont à l'IS et très motivés pour prendre part aux cours d'apprentissage dans l'espoir de sourire en fin d'année à l'issue des examens.
Je participe à cette formation. Bon, tout à fait, premièrement, on m'a dit que ça aide beaucoup. La plupart de mes amis sont passés par là et puis d'autres ont réussi. Donc je voulais passer aussi pour voir si j'aurais la chance là-bas.
De la manière dont le professeur explique les cours, ouais, ça me permet de bien suivre. Et je crois qu'avec ça, à la fin, je pourrai obtenir de bons résultats.
Le promoteur Hervé Guédenon promet des cadeaux à l'élève qui se fera remarquer par son travail et compte offrir des cadeaux comme une moto.
La célébration en différé du 1er mai de la radio-télévision Omega a pris fin par un dîner gala ce dimanche 15 mai dans l'enceinte du centre commercial Laïco. Au cours de cette soirée dédiée au personnel, le directeur général a encouragé toute l'équipe d'Omega qui, dit-il, se bat pour le succès du média. On note aussi à cette soirée gala plusieurs prestations artistiques. Pierre Badolo pour le compte-rendu.
Une soirée gala pour clôturer en beauté la célébration en différé du 1er mai des 48 heures des agents d'Omega Media. Ils sont sortis en nombre pour l'honneur qui leur a été fait. Des pas de danse ont été esquissés dans la gaieté. Des discours n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Aimé Kabore, délégué du personnel.
Omega, ce sont des reportages qui nous ont permis de sauver des vies, qui ont permis à certains de prendre l'ascenseur social. J'en veux pour preuve la petite Aïcha. Avec une balle dans les poumons.
Le directeur général, lui, a tenu à féliciter le personnel pour le travail abattu au quotidien. Il les a exhortés à plus d'abnégation. Wenzel Louis Houlon, directeur général d'Omega Media.
Je peux dire que du point de vue crédit, confiance, je suis presque certain que nous avons ce leadership. Cette télévision que nous avons pris au grand zéro, à dire avec câblage à même, et aujourd'hui une fierté. Sujet à la une, angle d'attaque, unité spéciale de grand reportage, je vous demande de vous applaudir. Merci et à bientôt pour d'autres défis. Le travail ne fait que commencer, je m'excuse pour la pression. Merci.
La gérante du média Omega a elle aussi reconnu le sacrifice des agents. Elle en a témoigné l'utilité de l'honneur porté à ses agents qui n'hésitent pas quant à la valorisation de l'éthique et la déontologie et surtout le slogan d'Omega Media. Aminata Bari, gérante d'Omega Media.
Aujourd'hui, c'est l'occasion aussi pour Omega Media de dire merci à son personnel, d'expliquer à son personnel que sans son personnel, il n'y a pas le Média Oméga. Et sans son personnel, il n'y a pas d'auditeur Oméga. Alors donc, c'est aussi l'occasion de dire merci à l'auditeur Oméga, parce que l'auditeur Oméga nous prête son oreille. Le téléspectateur Oméga nous prête aussi ses yeux, nous prête son attention et son temps. Alors nous leur disons merci et nous expliquons aux travailleurs combien ils sont importants dans la chaîne, combien ils occupent la meilleure place de la chaîne dans l'entreprise. Sans hommes, il n'y a pas d'entreprise. Le bien matériel ne peut rien faire sans les humains.
Ces 48 heures de célébration en différé de Radio Oméga ont été meublées par des activités telles qu'une séance d'aérobic, un match de football entre Oméga et ses auditeurs, et le tout couronné par la soirée gala riche en prestations d'artistes.
En France, Elisabeth Borne nommée première ministre en remplacement de Jean Castex. Comme attendu depuis la réélection d'Emmanuel Macron, il y a 3 semaines, le premier ministre Jean Castex a présenté la démission de son gouvernement ce lundi 16 mai au palais de l'Élysée à Paris. C'est Elisabeth Borne, ex-ministre du Travail, qui a été choisie dans la foulée par le président de la République pour diriger la prochaine équipe. Elisabeth Borne est la 2e femme première ministre de l'histoire en France, après Edith Cresson, qui avait occupé le poste entre le 15 mai 1991 et le 2 avril 1992. Et suite à cette nomination, Marine Le Pen, du parti d'extrême droite en France, a réagi sur sa page Twitter en ces termes. En nommant Elisabeth Borne comme premier ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de raquette fiscale et de laxisme.
La revue de presse.
La revue de presse du jour porte la signature de Asma Odao.
Dans sa livraison du jour, l'Observateur parle à titre « Expulsion correspondante TV5 d'une manifestation, mais pour qui se prend Kémi Séba ?» Et le journal va avec des mots durs pour qualifier Kémi Séba, entre autres, le pantin au cerveau hybride, ce masturbateur de la conscience panafricaine, pour enfin donner sa position. Nous condamnions sans réserve ce qui ressemble à une stigmatisation mensongère d'une consoeur dans l'exercice de son métier. Nous condamnons non par corporatisme, sans borne, mais pour une question de principe et de fidélité à notre déontologie qui consacre, entre autres, valeurs, la sacralité des faits et la liberté dans le commentaire, a écrit l'Observateur Talga, contrairement au confrère Le Pays qui écrit « Attention, la forme tient le fond en l'état ». Se justifiant que la manière dont se comportent les acteurs sont souvent sujettes à caution. Pour lui, l'éveil des consciences est aujourd'hui tel que la victoire contre l'impérialisme n'est plus une vue de l'esprit. Mais encore faut-il que les combattants de la liberté ne commettent pas l'erreur fatale de remplacer le choléra par la peste en demandant aux Français de dégager pour faire place nette à d'autres prédateurs qui viendront se goberger au caviar et à la vodka grâce au pillage de nos maigres ressources. Et c'est l'Observateur Palga qui revient donner les dernières nouvelles du front. Une 50aine de morts ce week-end selon le journal qui souligne, en plus 7 blessés. Pour le journal, les individus armés non identifiés ne cessent de montrer à souhait qu'ils sont sans foi ni loi. Et en plus de l'insécurité, la masse populaire fait face à la dureté de la vie selon Sidoya qui titre « Entre hausse et surenchère ». Et entre les lignes se lit « Pas de répit. En proie à l'insécurité, les Burkinabés doivent affronter une autre épreuve que lui impose cette fois la hausse mondiale des coûts du pétrole et des prix des denrées alimentaires de base. Mais pour le confrère, il faut se rendre à l'évidence que les pouvoirs publics n'ont pas de prise réelle sur la hausse des prix de certains produits de base, dépendant de facteurs exogènes. Il faut cependant reconnaître qu'ils ont tout à fait la possibilité d'atténuer la situation, d'éviter ou de limiter la surenchère et les augmentations déraisonnées auxquelles on assiste parfois sur la base de simples rumeurs. Et hors de chez nous, les confrères abordent la sortie du Mali du G5 Sahel par communiqué aujourd'hui face au titre « Retrait du Mali du G5 Sahel, le coma devient quasi irréversible ». Le journal note qu'en vérité, le G5 Sahel, qui n'a jamais pu démarrer, est dans un état comateux quasi irréversible par manque de moyens. Et pour le confrère, quoi qu'on dise, ce retrait du Mali n'arrange en rien la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et les manifestations anti-français, selon l'Express du Faso qui écrit « N'Djamena, Ouagadougou, Bamako, ce honteux sentiment anti-français ». Pour le journal, nous avons eu suffisamment de temps pour nous décoloniser. Malheureusement, au fur et à mesure, nos esprits se colonisent de plus en plus. Est-ce la faute de la France, se demande le confrère. Et le confrère, le quotidien, de souligner que la France et des chefs d'État des pays francophones sont au pilori. Le confrère estime que des accords qui n'ont pas d'effet positif pour le pays et pour les populations sont des accords sans importance, voire nuisibles, donc à remettre en cause sans état d'âme, selon le confrère, le quotidien.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité du jour est Mahamoudou Sawadogo, gendarme à la retraite et expert en sécurité. Interrogé par Ibrahim Bayili, il se prononce sur le retrait du Mali, du G5 Sahel et de la force conjointe.
Mahamoudou Sawadogo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en sécurité. C'est vrai que le Mali a décidé de quitter le G5 Sahel. Alors dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle?
Le retrait du Mali suit une certaine logique, en ce sens que au niveau des instances et des opérations de la force conjointe du G5 Sahel, vous avez, un détachement d'une liaison d'une demi-douzaine de militaires de Barkhane qui sont dans le poste de commandement inter-armes théâtre et donc avec des officiers de liaison. Donc je vois mal comment est-ce que ils allaient continuer à fonctionner alors que les deux pays vraiment ne se parlent pas. Donc pour moi c'est une suite logique.
Est-ce que si par exemple on n'avait pas refusé la présidence au Mali, ce retrait allait avoir lieu? Est-ce que vous pensez que quelle que soit la situation, le Mali allait un jour partir parce que ça n'entend pas trop avec la France et l'Union européenne?
Oui, le Mali allait du jour au lendemain en tout cas quitter ce G5 Sahel parce que étant donné que c'est le G5 Sahel était sous perfusion de l'Europe. Vous savez, autour du G5 Sahel, il y a un certain nombre de projets ou de programmes financés par l'Union européenne qui gravitent autour du G5 Sahel. Donc, on dit du G5 Sahel, par exemple, que c'est une coopération régionale horizontale structurée autour de partenaires verticaux. Alors, autour du G5 Sahel, vous avez l'UITM aussi. L'UITM qui est une force qui est chargée de former les militaires du G5 Sahel. Et vous savez que l'Union européenne a retiré ces forces qui sont en train de former les forces maliennes. Il y a l'Alliance Sahel, il y a plein de projets autour du G5 Sahel qui fait qu'aujourd'hui, financés uniquement par les Européens, qui fait qu'aujourd'hui c'est presque impossible de travailler ensemble.
Alors, est-ce qu'avec le retrait du Mali, finalement, le G5 Sahel n'est pas en train de s'effriter?
Le G5 Sahel est d'ailleurs en train de mourir de sa belle mort parce que on a dans un premier temps une structure qui était fermée. C'est-à-dire qu'en dehors des 5 pays du G5 Sahel, aucun autre pays ne pouvait être membre. Et vous voyez que pour anticiper, les États même étaient conscients de cela et pour anticiper, les États ont tentent d'opérationnaliser et de formaliser ce qu'on appelle l'initiative d'Accra qui regroupe les pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso et puis la Côte d'Ivoire. D'une mesure, ça veut dire qu'ils savaient que le G5 Sahel était bloqué et n'allait plus pouvoir fonctionner. Et avant, l'initiative d'Accra, c'est vrai, existait avec la présence du G5 Sahel, mais elle était informelle. Mais depuis le dernier sommet tenu à Lomé, ils ont décidé de formaliser l'initiative d'Accra et qui va prendre en compte, si vous voulez, c'est un G5 Sahel en naissance.
Et là, il ne sera plus G5 Sahel, parce que le G5 tire son nom des 5 pays qui constituent cette organisation.
Absolument, c'est pour dire qu'il est presque mort. C'est pour dire qu'il est presque mort. Et quand vous regardez au niveau du G5 Sahel, on a combien de pays qui ont une stabilité politique. Il n'y en a plus que 2 sur 5. Vous avez rien que le Niger et la Mauritanie. Sinon, que ce soit le Burkina, le Tchad ou le Mali, ils sont tous en transition. Et alors que les pays européens et les partenaires ne financent pas les pays en transition. Donc, vous voyez clairement que ce G5-là, il est mort. Les autres, ils vont peut-être se fondre dans la coopération bilatérale ou dans d'autres organisations qui sont propres à leur sous-région. Notons que le Niger, le Tchad et le Nigeria ont ce qu'on appelle la force mixte multilatérale qui existe déjà et aussi qui mène des opérations sur divers fronts. Donc il y a aussi le Burkina qui vient avec l'Alliance Sahel. Donc il y a déjà des structures qui sont en train de se former en prélude, bien sûr, à la mort du G5 Sahel.
Et là, le Mali va se sentir partant.
En réalité, la position du Mali oblige les autres pays à l'intégrer parce qu'on a beau lutter contre le terrorisme, tout le monde sait que la base est partie du Mali. Et donc, on est obligé aujourd'hui d'intégrer le Mali. Et c'est pour ça d'ailleurs que et l'initiative d'Accra, donc il est important de décortiquer les tenants et les aboutissants, a demandé à l'Union africaine et aussi à la CEDEAO de lever les sanctions contre le Mali concernant la lutte contre le terrorisme. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas et gagner cette lutte sans le Mali. Donc, ils ont demandé. Donc, vous voyez, l'initiative d'Accra qui concerne les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, ont demandé à la CEDEAO de lever les sanctions contre le Mali pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc, vous voyez clairement que le Mali ne va pas se retrouver isolé. Le Mali va être intégré dans ces initiatives-là. Mal en bon là, ça c'est clair.
C'était l'invité de la rédaction.
C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tiendrebego. À la présentation, Jamila Setopan, merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.